Gilles Yabi, bonjour.
Bonjour.
La présidentielle suspendue par la Cour suprême, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le candidat Georges Weah ?
Il est certain qu'il était en tête de l'élection, du premier tour, et donc en position de force pour le second tour. Et donc c'est sans doute une moins bonne nouvelle pour Georges Weah que pour son adversaire, le vice-président sortant, Joseph Boakai. Et c'est évidemment une bonne nouvelle pour celui qui a porté, disons, le recours auprès de la Cour suprême, le candidat arrivé en troisième position, Charles Bronstein.
Alors, à l'origine de cette décision de la Cour suprême, il y a en effet cette plainte de Charles Bronstein qui a dénoncé, je cite, « des fraudes systématiques et à grande échelle ». Est-ce que c'est crédible ?
Je crois qu'il y avait des difficultés dès l'enregistrement des électeurs et disons des critiques assez fortes de la commission électorale avant même la tenue de l'élection. Donc on ne peut pas exclure qu'il y ait eu des irrégularités.
Mais pourtant en 2005 et en 2011, ça s'était plutôt bien passé, non ?
Elle est toujours difficile lorsqu'on parle d'élection de dire ça s'est bien passé. Tout est dans le standard qu'on essaye de se donner et en tout cas auquel on veut aspirer en matière de crédibilité du processus électoral. Je crois qu'en 2005 et en 2011, il y avait déjà eu des contestations. Et d'ailleurs, en 2011, le duo déjà de Winston Tubman et de Georges Weah, qui était alors candidat à la vice-présidence, ce duo avait finalement boycotté le second tour et avait eu un résultat de 9% au second tour, précisément parce qu'il avait finalement appelé au boycott.
Est-ce qu'il y a un effet Kenya ? Est-ce que la Cour suprême de Monrovia s'est inspirée de celle de Nairobi il y a 2 mois ?
Je crois qu'il y a effectivement sans doute une décision au Kenya qui va avoir des répercussions, au moins, disons, psychologiques sur les juges de Cour suprême ou de Cour constitutionnelle appelés à se prononcer sur des recours. Je crois que c'est une attitude qui me semble être raisonnable. Il est raisonnable lorsqu'on a un processus de recours. Je crois qu'il est raisonnable qu'effectivement, pour la crédibilité du processus, que les plaintes qui ont été adressées soient examinées et qu'il y ait une transparence. Et la décision qui sera prise, elle doit être comprise par les populations et c'est ça la condition de la stabilité du Libéria dans une période électorale.
Gilles Yabi, d'habitude, c'est l'opposition qui crie à la fraude contre le parti au pouvoir, mais là, c'est notamment le parti au pouvoir de Joseph Boakai qui crie à la fraude contre le parti d'opposition de Georges Weah. Est-ce que ce n'est pas une première dans l'histoire ?
C'est une situation pour le moins inhabituelle, effectivement, que ce soit, disons, le parti au pouvoir, hein, associé au parti du candidat arrivé troisième. Je crois que c'est effectivement assez inhabituel. Mais cela montre bien, au fond, la complexité politique de la situation, puisque le candidat du parti au pouvoir, le vice-président Boakai, ne semble pas être vraiment soutenu par la présidente sortante, Hélène Johnson-Sirleaf.
Et peut-on alors parler d'une alliance secrète et contre nature entre Johnson-Sirleaf et Weah ?
Je crois que ce serait aller très loin, hein, l'absence de preuves d'une telle entente. On sait que la présidente n'a pas montré beaucoup d'engouement et ne s'est pas investie personnellement dans la campagne du vice-président. Ce n'est pas nécessairement aussi surprenant que ça dans le contexte politique et institutionnel du Libéria. Au fond, on choisit le vice-président souvent parce qu'il peut apporter des votes. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a une proximité personnelle très forte. Et donc, on peut aussi penser que Hélène Johnson-Sirleaf fait peut-être également des calculs par rapport à l'avenir et que Georges Weah apparaissait comme le candidat ayant le plus de chances de l'emporter cette fois-ci.
On sait que la société est très divisée au Libéria entre les descendants de ceux qui sont revenus des États-Unis et les autres. Qu'en est-il entre Georges Weah et Hélène Johnson-Sirleaf ?
C'est aussi une des lignes un peu de fracture de la société libérienne qui se retrouve au niveau politique, c'est-à-dire que on considère Madame Sirleaf comme étant en partie, en tout cas, américo-libérienne et donc de cette élite qui est très proche des États-Unis, qui est plutôt dans des conditions économiques et sociales bien meilleures à celles de la majorité des populations dites autochtones. Et Georges Weah a lui effectivement disons l'avantage d'être du côté des populations dites autochtones et donc d'avoir un ancrage plus important auprès des classes populaires. Et donc oui, c'est aussi une ligne de fracture au sein de la société qui n'a pas vraiment été fermée par les 12 dernières années de la présidence Hélène Johnson-Sirleaf.
Quand l'opposant Charles Bronstein dit redouter un retour de la guerre civile des années 90, est-ce qu'il n'exagère pas tout de même ?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a sans doute une exagération. Il y a de bonnes raisons de croire que la société libérienne a été tellement marquée par la guerre civile qu'elle n'est pas prête à retourner dans ce schéma-là. Mais je crois qu'il faut aussi être très prudent. On ne peut pas exclure, par exemple, des violences si on a à nouveau l'impression que le processus électoral n'est pas crédible. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'en 2005 et en 2011, il y avait de fortes contestations et que Georges Weah, par exemple, si le processus actuel, de manière non transparente, aboutit à nouveau à une défaite de Georges Weah au second tour, il pourrait y avoir des réactions violentes. C'est pour ça que, quel que soit le gagnant, ce qui est vraiment important, c'est la crédibilité du processus. Et là, cela nous renvoie évidemment aussi à la situation au Kenya.
Gilles Yabi, merci.